Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal. Et juste après, on ouvre comme chaque soir le Club des Idées. Ce soir, alors qu'Emmanuel Macron est toujours en déplacement dans les Alpes-Maritimes au chevet des sinistrés, on évoquera avec nos invités les réponses pour éviter que ces drames liés aux intempéries se répètent et se multiplient. Faut-il revoir l'urbanisation des zones exposées, déplacer les maisons, déplacer les villages? Ce serait nécessaire, disent certains experts. Eh bien, on en débattra avec nos invités tout à l'heure à partir de 19h20. Et juste avant, ce sera l'heure de la carte blanche du Club des Idées, avec ce soir la philosophe Julia de Funès, qui reviendra justement pour nous sur la notion de solidarité. D'abord, le point sur l'info, comme chaque soir, avec Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Tout ce qui s'est fait dans ces heures, c'est une mobilisation collective absolument remarquable. C'est beaucoup de courage, beaucoup de solidarité.
Emmanuel Macron face aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Le président salue la mobilisation et il promet de ne pas abandonner la région.
55 communes placées en état de catastrophe naturelle. On verra concrètement quelles sont les annonces. Comment retrouver aussi un semblant de vie dans des villages qui aujourd'hui manquent de tout.
La dernière ligne droite de la présidentielle aux États-Unis. Cette fois, ce sont les lieutenants qui entrent dans l'arène et Donald Trump, distancé dans les sondages, compte beaucoup sur la performance ce soir de son vice-président Mike Pence.
On vous racontera également dans ce journal l'incroyable parcours du trésor de Kadhafi, dont les millions d'euros sont actuellement écoulés en France.
Le foot, France-Ukraine, ce soir, match amical, sans enjeu, pratiquement sans spectateurs, alors que l'une des deux équipes est décimée par le Covid. Une question de gros sous, nous dira Cyril Delamorinaï.
Et puis vous verrez aussi combien Instagram, qui fête aujourd'hui ses 10 ans déjà, a révolutionné la communication des grands chefs. La tendance météo avec Anissa, ciel bleu contre ciel gris demain.
Oui, et le contraste sera bien net demain entre le nord et le sud. L'automne et le printemps dans la même journée, c'est le programme de votre jeudi. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont des habitants qui, pour beaucoup, ont tout perdu, qui ont accueilli cet après-midi le chef de l'État Emmanuel Macron.
Le président s'est rendu d'abord à Tende, depuis à Breil-sur-Roya, dans chacune de ses communes. Il a pris le temps d'aller au contact des sinistrés, d'écouter leurs doléances, leur peur de l'avenir également. Aux habitants de Tende, coupés du monde, il a promis dans les prochaines heures l'ouverture d'un accès par l'Italie, on va y revenir. En tout cas, à tous, le président a tenu le même discours, on ne vous abandonnera pas, et il a salué une mobilisation collective remarquable.
Je veux d'abord et avant toute chose avoir des remerciements. Remercier l'ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés. Et puis remercier nos citoyens. Cette formidable chaîne humaine qui s'est constituée. Et le courage physique, la résistance et la solidarité que nos concitoyens ont démontré durant ces longues heures, parfois ces journées, où ils étaient coupés du reste du monde et où les secours ont mis, et quand on est victime, on met toujours trop de temps à arriver. Et donc ces remerciements, c'est d'abord montrer que tout ce qui s'est fait dans ces heures, c'est une mobilisation collective absolument remarquable. C'est beaucoup de courage, beaucoup de solidarité.
Et on vous retrouve en direct de Breil-sur-Roya, Jean-Rémy Baudot. Emmanuel Macron, Jean-Rémy, n'est pas venu seulement avec des mots apaisants, mais aussi avec des annonces concrètes.
Oui, des annonces pour la reconstruction. Emmanuel Macron a annoncé une première enveloppe d'aide de 100 millions d'euros pour la reconstruction. Il a aussi précisé que le fonds Barnier, qui est financé par les assureurs, mettra 50 millions sur la table. Cette somme est évidemment en plus des remboursements des assureurs. Mais tout ça, ça n'est pas suffisant. Bien évidemment, tous ces fonds, ils vont devoir monter en puissance. Car j'en parlais avec le président du département il y a quelques instants. Il évalue les besoins à plus de 800 millions d'euros, dont 500 millions rien que pour les routes et les ponts. Les sommes seront donc considérables. L'État, la région, l'ensemble des pouvoirs publics, eh bien, vont mettre la main au portefeuille. Mais au-delà des chiffres, le président a précisé que la reconstruction ne pourrait pas se faire à l'identique. Les nouvelles infrastructures, les nouveaux bâtiments, ils seront pensés pour éviter qu'un tel drame advienne à nouveau. Il faudra limiter l'artificialisation des sols, a aussi martelé Emmanuel Macron, pour, dit-il, mieux prévenir les risques.
Merci Jean-Rémy Baudot en direct de Breil-sur-Roya. Emmanuel Macron qui doit maintenant se rendre à Saint-Martin-Vésubie et qui a indiqué tout à l'heure que le bilan toujours provisoire est de 5 morts.
Et si en France le président est sur le terrain, aux États-Unis, Donald Trump, lui, est théoriquement toujours en retrait au lendemain de sa sortie de l'hôpital.
Et ça tombe bien puisque c'est son vice-président qui sera sous les projecteurs ce soir pour le traditionnel débat des numéros 2. Mike Pence face à Kamala Harris. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors ce soir Didier, l'enjeu taille parce que depuis le duel Trump-Biden qui n'a pas été franchement une grande réussite non. Et depuis son hospitalisation mondialisation, le président américain recule dans tous les sondages.
Oui, alors c'est loin d'être une dégringolade, mais oui, la cote de Donald Trump ne cesse de s'éroder. Et la dernière vague de sondages qui vient d'être publiée et qui a été réalisée juste après sa sortie de l'hôpital confirme cette tendance, alors que pourtant le président bénéficie de la sympathie, ou en tout cas de la compassion de la plupart des Américains en raison de sa maladie. Cela ne se transforme pas en intention de vote. Au contraire, selon tous les instituts, sans exception, le candidat démocrate Joe Biden remporterait à ce stade l'élection dans tous les cas de figure. Hein, le nombre de scrutins dans le vote populaire, avec un taux d'approbation à 52% contre seulement 42% pour Donald Trump, ça fait 10 points d'avance. Puis surtout, une avance très confortable parmi les femmes, 66% contre 32%. Parmi les électeurs de plus de 60 ans, c'est important, hein, qui avaient massivement soutenu Donald Trump lors du dernier scrutin, eh bien, ils sont à 60% aujourd'hui en faveur du candidat démocrate, contre seulement 39% pour le président sortant. C'est clairement une critique de sa gestion de l'épidémie. Il est accusé de ne pas avoir suffisamment protégé la vie des Américains. Et donc, ça se traduit par une victoire probable de Joe Biden, y compris dans le collège des grands électeurs, puisque les projections lui donnent 279 mandats contre 179 à Donald Trump, sachant qu'il en faut 270 pour être élu.
Bon, ça lui laisse une légère avance théoriquement pour l'instant. Théorique. Alors, il faut toutefois rester extrêmement prudent. Évidemment, ce ne sont que des sondages et on a vu ce que ça a donné lors de la précédente élection.
Voilà, vous avez parfaitement raison. Et puis, chat échaudé craint l'eau froide, comme disait ma grand-mère, parce que
pas mal, celle-là.
Lors du dernier scrutin en 2016, Hillary Clinton était donnée gagnante par les mêmes sondeurs, avec la même marge d'avance de 10 points à la même période, exactement 27 jours avant le scrutin. Alors, elle avait d'ailleurs remporté le vote populaire avec 3 millions de voix, mais seulement 304 électeurs contre 227, qui, eux, donc, avaient le collège électoral, avaient finalement voté pour Donald Trump. Les 304 avaient voté pour Donald Trump contre 227 pour Hillary Clinton. Ce qui explique l'extrême prudence de tous les commentateurs aujourd'hui, qui font quand même remarquer qu'à l'époque, la dynamique était favorable au candidat Trump, alors qu'aujourd'hui, la tendance est défavorable au président sortant.
Merci Didier. L'œil de Didier François, je le rappelle, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Le Royaume-Uni se dit prêt ce soir à un échec de ses négociations commerciales avec l'Union européenne, toujours dans l'impasse à l'approche de la fin de la période de transition post-Brexit. Le président du Conseil européen, lui, appelle les Britanniques à jouer carte sur table. L'Europe veut un accord, dit-il, mais pas à n'importe quel prix.
19h07, la suite de votre journal avec l'affaire Théo, ce jeune homme, souvenez-vous, grièvement blessé lors d'un contrôle de police en 2017. On en a beaucoup parlé. Le parquet requiert le renvoi des trois policiers devant une cour d'assises pour violence volontaire.
En revanche, le procureur ne retient pas la qualification de viol aggravé.
Les obsèques aujourd'hui de la jeune Victorine.
La jeune fille de 18 ans qui avait été retrouvée noyée il y a 10 jours dans un ruisseau à Villefontaine. Une enquête pour meurtre a été ouverte. La messe a été co-célébrée cet après-midi par 15 prêtres en l'église Saint-Jean-Baptiste à laquelle la troupe scout de la jeune fille était rattachée. Deuxième journée d'audition pour Nicolas Sarkozy.
Oui, dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, les enquêteurs étudient un pacte présumé de corruption entre le clan Sarkozy et le clan Kadhafi.
Alors l'info qui suit n'a rien à voir. Le seul lien avec la première, c'est Kadhafi, justement, parce que figurez-vous qu'on a découvert qu'une partie du trésor de l'ancien chef d'État libyen aurait été retrouvé, Guillaume Bié, en Haute-Vienne.
Eh oui, incroyable histoire que le parcours de ces grosses coupures, des billets de 100 et 200 euros appartenant au régime libyen est saisi à Limoges. En fait, il y a 10 ans, Muammar Kadhafi a commandé 160 millions d'euros à la Banque Centrale Allemande. Ce pactole, il était stocké dans une banque de Benghazi, tombée aux mains de l'armée lors de la chute du régime. La moitié a été dépensée par les militaires, l'autre moitié a été récupérée par la mafia turque, parce que ces billets étaient très abîmés. Ils ont passé des semaines dans l'eau, dans la salle des coffres, noyés par une rupture de canalisation. Et donc depuis, ces coupures très dégradées pour certaines sont revendues illégalement 50 à 75% de leur valeur par des trafiquants turcs. La Banque Centrale Européenne a commencé à les détecter dans les circuits l'an dernier. Toute la série a été bloquée, mais certains escrocs ont réussi à en écouler, comme ce couple de Limoges, arrêté il y a quelques jours par la police judiciaire et qui aurait ainsi blanchi 40 000 euros. Alors, au-delà de ce couple, les enquêteurs estiment qu'au total, 4 à 5 millions d'euros du trésor de Kadhafi ont déjà été réintroduits en Europe, dans les circuits bancaires, mais qu'il resterait encore des dizaines de millions en Turquie, de l'argent sale, au propre comme au figuré.
Incroyable. Guillaume Bié du service police justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal à 19h11 avec Isabelle Millet. On joue au foot, paraît-il, ce soir. Enfin, on va essayer parce que franchement, le cœur n'y est pas. Difficile dans le contexte actuel.
Eh oui, France-Ukraine, match amical au Stade de France. Vous imaginez l'ambiance? Eh bien non. 1000 spectateurs en tout et pour tout, 80 000 places. Une équipe d'Ukraine décimée par le Covid. Alors Cyril de la Morinerie, vous êtes déjà sur place en direct. Cyril, oui. Pourquoi est-ce qu'on le joue quand même ce match? Quel intérêt?
Alors écoutez, on ne va pas se mentir, hein, ce match est organisé pour des raisons financières avant tout. Cette rencontre prévue à l'origine en mars dernier va permettre à la fédération, elle aussi touchée par la crise sanitaire, eh bien de limiter la casse et d'engranger des droits télé, environ 3,5 millions d'euros. Et peu importe donc si l'enjeu sportif est très limité, notamment parce que cette équipe d'Ukraine, vous l'avez dit, est nettement amoindrie. 14 joueurs ont déclaré forfait, parmi eux 8 sont positifs au Covid-19, dont les 3 gardiens. Un seul est en bonne santé, si bien que l'entraîneur des gardiens de 45 ans est réquisitionné. Il sera sur le banc ce soir. Donc drôle d'ambiance, notamment ici sur l'esplanade du Stade de France, pratiquement vide. Il a fallu chercher pour trouver un supporter. Clément mesure sa chance d'avoir un billet.
C'est fabuleux parce que c'est les grandes retrouvailles avec l'équipe de France. 329 jours sans voir les Bleus. Et nous, les supporters, on va être 155 répartis dans toute la tribune nord. Bon, évidemment, le tribune nord, c'est pas le chaudron de la Saint-Étienne. Hein. Mais on restera pas à Frône, ça c'est sûr.
Allez. Voilà, au total, eh bien, ils seront 1000 supporters hein, ce soir au Stade de France. Ils promettent d'acclamer Giroud, titulaire et capitaine ce soir, mais aussi Kamavinga ou encore Aouar, qui devrait fêter sa première sélection ce soir.
Il va falloir donner de la voix.
Hein. Oui, ils n'ont pas, pas l'air mal, ces supporters
et
aussi.
Ils sont chauds, oui, heureusement. Match à suivre en fil rouge ce soir sur Europe 1, coup d'envoi à 21h10 à Roland-Garros. C'est le fait marquant du jour. Le grec Tsitsipas se qualifie pour la première fois pour les demi-finales. Il a battu le russe Rublev et il retrouvera en demi, donc, soit Novak Djokovic, soit Pablo Carreño, qui s'affrontent en ce moment. Et c'est l'Espagnol qui mène pour l'instant 4-3 dans le premier set.
Bien, un anniversaire pour terminer, Isabelle. Le réseau social Instagram qui fête ses 10 ans, j'ai du mal à le croire.
Et c'est un réseau qui fédère aujourd'hui déjà plus d'un milliard d'utilisateurs, qui a révolutionné en particulier le partage de photos. En gros, pour ceux qui vivent sur une autre planète, hein, Instagram, eh ben on poste son chat, son chien, son lieu de vacances et surtout son assiette.
Ben oui, ça vaut chez soi pour sa poêle d'Irole, par exemple, pour son steak. Alors généralement, c'est des plats qui sont un peu plus élaborés tout de même. Ça vaut aussi quand on va au restaurant, Pierre Herbulot, à tel point que les grands chefs ne peuvent plus s'en passer. C'est devenu un outil marketing presque.
Oui, et pour vous en convaincre, je vais vous raconter l'histoire du gnocchi à 1 million de vues. Celui du chef du restaurant Le Georges à Paris, Simone Zanoni. Depuis le confinement, le chef partage tout sur son compte Instagram. Du façonnage des gnocchi donc, au dernier plat et dessert à la carte. Et avec plus de 150 000 abonnés, l'effet est immédiat.
La fille qu'on vient d'apposter, seulement pour vous dire, il y a 61, 62 000 personnes qui ont vu la photo. Et depuis qu'on a mis la figue à la carte, on vend des figues tous les jours en manière extraordinaire. Parce que les gens ils se disent, tiens, j'ai vu le nouveau dessert, allez, on va l'essayer. Mine de rien, c'est l'outil des communications aujourd'hui les plus efficaces qui existent sur la planète.
En juillet, le restaurant, grâce au succès du chef sur les réseaux, a fait l'un de ses plus gros chiffres d'affaires depuis son ouverture, malgré la crise sanitaire. Le miracle d'Instagram qui transforme avec une belle lumière et un bon appareil photo les pâtisseries en stars de cinéma et les pâtés en croûte en mannequin.
Oui, le regain du pâté croûte, on le doit entre autres à Instagram.
Le réseau social a dépoussiéré le fameux pâté croûte, raconte Nicolas de la charcuterie Maison Véro.
Instagram, je pense, a vraiment cassé toutes ces barrières à l'entrée de ces commerces. Les gens ont simplement compris qu'en charcuterie, on peut avoir des produits canons, on peut avoir des produits qui sont beaux, qui sont surtout très très bons. Et surtout, ce n'est pas quelque chose pour les vieux.
Un cercle vertueux puisque les clients satisfaits repartagent les photos sur leur propre compte de la pub gratuite, mais chronophage. Le chef Simone Zanoni y passe entre 1 et 2 heures par jour.
Oui, mais quand même.
Le pâté croûte des chefs, ce n'est pas celui de papier mamie, hein, ouais. Pardon, parce que la cuisine, c'est aussi du beau, non?
C'est de la haute couture.
C'est de la haute couture, absolument.
Le pâté en croûte en mannequin, il faut essayer de visualiser. Hein.
Très belle image. Merci Pierre Herbulot. C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. La météo avec Anissa, avec une journée demain très contrastée.
Oui, avec sur la moitié nord, Julien, un temps gris et maussade de la Normandie aux Hauts-de-France. Demain, nous aurons des averses tout au long de la journée. Sur les côtes de la Manche, le vent d'ouest continue de souffler avec des rafales jusqu'à 80 km/h. C'est vraiment une journée très automnale au nord de la Loire. Au sud de la Loire, en revanche, c'est totalement différent. Le soleil est au rendez-vous demain dès le début de la journée. Attention, demain matin quand même, des Landes au massif central, nous aurons de nombreux brouillards et nuages bas. Si vous prenez la route tôt demain matin, prudence. Dans l'après-midi, le ciel est clair, bien ensoleillé. C'est une très belle journée printanière, voire même estivale. Les températures, elles sont plus fraîches au nord demain, avec 5 à 11 degrés. 11 à 16 sur la moitié sud, ça c'est pour le matin. Et dans l'après-midi, nous aurons 15 à 20 degrés au nord de la Loire, avec 19 degrés pour Paris, et jusqu'à 25 degrés en Provence. Je vous en parle depuis plusieurs jours, mais ça va se dégrader, notamment samedi, où le soleil sera là, mais nous aurons une grosse chute des températures, entre 4 et 5 degrés en moins l'après-midi.
Ça va être risqué. On sort les doudounes, les bonnets, et voilà, c'est parti pour l'hiver.
Exactement.
Et c'est bientôt Noël. Youpi, merci Anissa. 19h16, on ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, comme chaque soir, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est la philosophe Julia de Funès qui nous accompagne. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien.
Ravi de vous retrouver. Alors ce soir, vous allez revenir sur ce déplacement, on l'évoquait dans le journal du président Macron, au chevet des sinistrés des Alpes-Maritimes. Mais attention, dites-vous, au choix des mots.
Ah oui, je vais être pénible. Je voulais revenir sur le mot solidarité qui, plus qu'un concept précis, devient un slogan un peu flou. Mis à part les régions fortement touchées par le sinistre, le reste du pays peut malheureusement se sentir un peu comme Madame Verdurin dans Le Temps Retrouvé, vous savez, la recherche du temps perdu, qui en plein petit déjeuner découvre dans son quotidien du matin un événement tragique, la nouvelle d'un naufrage. Et l'horreur du naufrage qu'elle ne fait que lire, évidemment, rehausse sa douce satisfaction de tremper ses croissants bien bons dans son café bien chaud. Sans être aussi égoïste et insensible que Madame Verdurin, l'injonction à la solidarité sur laquelle le président risque encore d'insister, peut-être ce soir à 20h, on verra, m'apparaît toutefois comme nécessaire mais vraiment insuffisante.
C'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup, solidarité, il faut être solidaire.
Oui, ça fait bien.
Dès qu'il y a une catastrophe, on utilise le mot solidarité.
Ça fait très bien. Mais la solidarité suppose une contrepartie. Étymologiquement, elle vient du mot solide, solidus en latin si je fais ma cuistre, mais dans un corps solide, les parties...
Vous êtes philosophe, vous avez le droit.
Oh non, c'est quand même pénible. Dans un corps solide, les parties sont solidaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut agir sur l'une sans agir aussi sur les autres. C'est une cohésion interne, une dépendance réciproque. Deux individus sont solidaires si ce que l'on fait à l'un impacte aussi l'autre. Et c'est toute la différence entre générosité et solidarité. Être généreux, c'est agir en faveur de quelqu'un dont on ne partage pas les intérêts. Elle est dans son principe désintéressée. Être solidaire, c'est agir en faveur de quelqu'un dont on partage les intérêts. C'est win-win, gagnant-gagnant, si j'utilise le vocabulaire affreux d'aujourd'hui.
Donc dans le cas d'espèce, il faudrait mieux parler de générosité que de solidarité ?
Alors, pas seulement, parce qu'il faut bien être solidaire, les assurances vont fonctionner. L'assurance, c'est typiquement un système solidaire. En défendant les intérêts des uns, on défend aussi ceux des autres. Mais si on n'a pas un intérêt personnel avec le Sud, on sera au minimum plein de compassion et sensible au désarroi et aux souffrances des gens du Sud, bien sûr. Au mieux, on sera généreux, on enverra notre soutien sous forme d'aide financière ou autre, mais on ne sera pas solidaire au sens propre du terme, et tant mieux d'une certaine façon, parce que parler de solidarité, c'est rentrer dans une logique d'intérêt mutualisé. Et le temps ne me semble pas être à la seule solidarité, mais à la nécessité d'aide, de moyens, de soutien, sans contrepartie aucune, sans attente de notre part, sans intérêt en retour. Aider, c'est vraiment dépasser ses propres intérêts, excéder la réciprocité et transcender, sortir d'une logique de solidarité.
Voilà, les mots ont un sens.
Oui, mais vous savez, j'ai écrit ma chronique avant 18h30 et le président parlait déjà moins à 18h30 de solidarité que de fonds, de moyens et d'aide. Et
donc, d'une certaine manière.
Non, il ne m'a pas entendu, mais il fait déjà bien mieux que ce que je raconte là.
Bien, bien. Et on suivra ce qu'il dira ce soir à 20h et on suivra l'utilisation des mots, car c'est vrai, vous le rappelez régulièrement, chez nous à Europe 1, les mots ont un sens et c'est important de le rappeler. Merci infiniment,
merci
Juliette
à vous.
Funès.
À bientôt.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des idées à 19h23, on s'arrête sur ces intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Comment se prémunir du pire face à ces épisodes climatiques extrêmes ? Le président de la République est toujours sur place, au chevet des sinistrés. Des villages ont été dévastés par les pluies torrentielles, faisant des dégâts considérables et au moins 5 morts. Alors tout cela était-il prévisible, évitable ? Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer les fragilités de ces territoires face à la multiplication de ces phénomènes. On en parle ce soir avec nos invités. Hervé Le Treut, vous êtes climatologue, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à la Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. On en parle également avec Yvette Véret, géographe et co-auteur de l'Atlas des risques en France, prévenir les catastrophes naturelles et technologiques. Bonsoir madame. Et on en parle également avec Boris Veliachev, architecte et ingénieur, spécialiste des questions de risques majeurs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et avec également Jean-Pierre Vassallot. Bonsoir monsieur, vous êtes le maire de Tende, c'est l'un des villages durement touchés par la tempête Alex. Vous avez reçu aujourd'hui la visite du chef de l'État, on va en parler d'abord. J'ai envie de vous demander tout simplement comment vont aujourd'hui les habitants de votre village. Ils ont vécu, on le sait, l'horreur. Ils sont, on l'imagine, toujours profondément choqués par ce qu'ils ont traversé.
Oui, les habitants du village ont vraiment vécu l'horreur, c'est le terme exact. On a vécu un véritable bombardement. C'est-à-dire, le phénomène s'est aggravé le soir à partir de 18h où des pluies diluviennes avaient commencé à tomber. Vers le vendredi soir, vers 22h, on a commencé à nous appeler en disant que des maisons commençaient à partir, la rivière commençait à emporter des maisons. Et après, et à ce moment-là, on s'est retrouvé sans électricité, sans eau, plus aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur de la commune.
Et coupé du monde pendant plus de 24 heures, c'est ça aussi
48 heures, coupé pendant 48 heures.
48 heures.
Et nous, le centre commune, coupé, mais on avait 4 hameaux autour de nous, où il y a 30 personnes par hameau, entièrement coupés eux aussi. Donc on a vécu une nuit d'apocalypse, puisqu'à 23 heures, il a fallu évacuer un EHPAD, avec 70 patients, on est arrivé à évacuer un EHPAD dans des conditions extrêmes, pluie battante, sans électricité, sans rien, plus rien ne fonctionnait. On est arrivé à faire cela, et le lendemain, on s'est retrouvés alors là, enfermés tous en vase clos, plus aucun moyen aérien pour venir nous voir, aucun moyen, toutes les routes obstruées, les ponts sont partis. On se réveillait avec des yeux ébahis, on constatait un véritable bombardement, nos ponts avaient été emportés, des maisons avaient été emportées, à la lumière du jour, on tombait des nues.
Monsieur le maire, des habitants de votre commune sont aujourd'hui portés disparus?
Malheureusement, on a un jeune berger qui est porté disparu, il était avec son frère, et son frère a pu s'accrocher à un arbre, il est resté pendant 4 heures accroché à un arbre. Et il a vu son frère disparaître avec une partie du troupeau.
Le président de la République, aujourd'hui, ça vous a fait, vous, élu chaud au cœur, et puis aux habitants qui étaient là. On a suivi ça sur les images, notamment des chaînes d'information en continu. On a vu qu'il y avait une attente très forte de la part des administrés et des habitants des communes, et notamment de la vôtre. Comment a-t-il été perçu, le président de la République, aujourd'hui?
Je crois qu'il a très bien senti le ressentiment qu'avait la commune, un sentiment de détresse. Ça a marqué tous les esprits. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité incroyable. Je crois qu'il n'y a plus que dans le milieu montagnard qu'on peut trouver cet élan de solidarité. Tout le monde a compris qu'on était en vase clos. Tout le monde a su vraiment se soutenir. Le président a vraiment pu entendre les gens s'exprimer sur leur détresse, sur la blessure qu'ils avaient subie, et il y a eu une demande unanime, vraiment une demande avec le plus grand respect, parce qu'on a été content qu'on se déplace. On se sentait un peu oublié de tous. Hein.
Je vous ai écouté tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très fort. Vous disiez quand la machine France se met en route, c'est absolument phénoménal. Merci, monsieur le président, d'avoir lancé les opérations pour nous venir en aide. Une dernière question, monsieur le maire. Il est sans doute pour vous trop tôt encore pour parler du long terme, mais pensez-vous qu'il soit prudent de reconstruire le village et les habitations de la même manière, si près de la rivière? Ces drames,
peut-être... Pas le village entier qui est parti. Attendez. Il y avait les maisons qui étaient en bordure de rivière, mais tout le vieux village n'est pas parti. Hein.
Bien sûr.
Les hameaux ne sont pas partis. Non, il ne faut pas... Maintenant, nous, on a la volonté tous de rester dans nos villages. Vous savez, on est tous ancrés dans nos villages. On a des populations de 2000 personnes. On a des racines qui sont très profondes. On veut garder un avenir. On veut garder un espoir pour nos enfants. Nos villages sont magnifiques. Moi, je dis toujours que mon village, c'est le plus beau du monde. Donc, on s'accroche à cela. On a des emplois ici dans le village. On arrive à maintenir une population
importante. Mais peut-être réfléchir à des constructions moins exposées à ces risques climatiques.
Ah ben voilà. Et maintenant, la rivière vient de définir exactement quel est son lit majeur. Ce qu'on n'aurait jamais envisagé, puisque après, il va falloir tenir compte vraiment de ce lit majeur de la rivière. Voilà.
Bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur le maire, et on vous souhaite évidemment à vous et à tous les habitants de la commune beaucoup, beaucoup de courage pour traverser les mois qui s'annoncent. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on s'arrête ce soir dans le débat du Club des idées sur ces intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Comment se prémunir du pire face à ces épisodes climatiques extrêmes? On en parle donc avec nos invités, Hervé Le Treut, notamment climatologue. Vous êtes professeur à la Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. D'abord, est-il vrai que ce type d'épisode méditerranéen, c'est comme ça qu'on les appelle, est amené à se multiplier? C'est ce qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est un épisode méditerranéen un peu particulier puisqu'il est né en Bretagne et qu'effectivement il a traversé tout le territoire français. Et c'est un épisode qui est un épisode qui... Enfin, tous les épisodes sont particuliers.
Oui.
Et ce qu'ils ont en commun, c'est effectivement d'avoir à la racine une relation avec le réchauffement global de la planète.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique?
On est effectivement face à des épisodes qui sont nombreux, qui sont nouveaux et qui sont complètement en phase avec les changements climatiques globaux que l'on a. Alors, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on met des gaz à effet de serre? On a un réchauffement global de la planète. Ce réchauffement, il se traduit en des conséquences qui à chaque fois sont un petit peu plus compliquées à étudier. Quand on arrive au phénomène lui-même, il a plusieurs chaînes causales qui sont arrivées à lui. Mais globalement, on a des épisodes qui sont plus nombreux et qui sont liés à ce réchauffement global de la planète et qui seront plus nombreux parce que ce réchauffement global de la planète est dans une phase où il va s'accélérer et continuer.
Alors, il faut bien se rendre compte de ce qui s'est produit dans les Alpes-Maritimes. Il est tombé l'équivalent d'un an de pluie à Paris, par exemple, en quelques heures seulement, ce qui est du jamais vu dans l'arrière-pays niçois, autant d'eau en si peu de temps, en 24 heures. Et des épisodes comme cela, je parle sous votre contrôle, il s'en produit entre 3 et 6 par an, avec une fréquence plus élevée en automne, car la mer est plus chaude. Donc, ces épisodes de plus torrentiels, qui amène à des situations de dévastation, parce que c'est ça qu'on a vu sur les images. Il y en aura plus dans les années qui viennent, quoi qu'il se passe.
Chaque épisode est différent, c'est pour ça qu'il y a toujours une difficulté.
Mais le
résultat, c'est quand même qu'aujourd'hui, quand on regarde à l'échelle de la planète, on a des épisodes un petit peu partout de ce type-là, que ce soit sur les deux hémisphères, sur tous les continents, ça se multiplie. Et ça va continuer à se multiplier. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a émis des gaz à effet de serre de manière extrêmement lourde dans ces dernières années. On émettait, dans les années 60, 10 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on en est à 40. C'est multiplié par 4. Vous prenez un verre d'eau, vous faites couler l'eau dans le verre d'eau 4 fois plus vite. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on continue avec les émissions de gaz à effet de serre.
Donc ça a un impact évidemment sur le climat et sur les catastrophes naturelles.
Donc cet impact est en train de croître parce qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre. Et surtout que tout est écrit, les gaz à effet de serre restent pendant un siècle à peu près dans l'atmosphère.
Oui.
Donc tout ce qu'on a mis se stocke et continue de se stocker. Donc en fait...
C'est irréversible.
C'est irréversible et c'est en augmentation. Il ne faut pas penser que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aujourd'hui, qui va continuer. Ça sera quelque chose de plus. C'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre aux gens.
Alors, réaction d'Yvette Véré, vous êtes géographe, co-autrice, je le disais, de l'Atlas des risques en France, prévenir les catastrophes naturelles et technologiques. Donc, vous connaissez bien le sujet. D'abord, est-ce que vous partagez le constat? Et puis, pour avancer et aller mettre les pieds dans le plat, voilà, est-ce qu'il faut, dans ces régions qui sont particulièrement exposées, le Var, l'Aude, les Alpes-Maritimes, est-ce qu'il faut renoncer à habiter dans ces zones proches des rivières, à flanc des montagnes?
Alors, je vous remercie. Je suis d'accord avec le professeur Le Treut, bien entendu, mais je voudrais quand même rappeler la permanence de ces événements qui doivent effectivement devenir plus nombreux et probablement plus forts encore. La permanence de ces événements dans cette région, comme dans les Cévennes, puisque c'est des systèmes climatiques assez proches. Et je vous rappellerai qu'en 1926, il est tombé 1000 mm au mois d'octobre, avec en deux jours 300 mm, par exemple. Et un énorme glissement de terrain s'est déclenché à Roquebillière, et qu'il a fallu, bien entendu, déplacer le village.
Oui, c'est vrai qu'on voit une accélération de ces phénomènes. Moi, j'ai noté que sur les 16 épisodes d'inondation les plus meurtrières sur les 100 dernières années en France, 6 ont eu lieu pendant les 10 dernières. Donc, je ne vais pas les citer, mais on sent vraiment qu'il y a une accélération.
Tout à fait, mais tout ça pour dire que tout de même, le risque et la catastrophe dans ces vallées est extrêmement connue, est extrêmement récurrente.
Et pourtant, on continue à y habiter.
Pardon ?
Et pourtant, on continue à y résider.
Et pourtant, on y réside d'autant plus que nous sommes dans l'arrière-pays niçois, que ce sont des régions très attractives, notamment pour les résidences secondaires, mais probablement aussi pour des formes de périurbanisation, un petit peu loin de Nice, mais enfin, tout de même, on n'est pas très loin. Et en conséquence de quoi, il y a eu une augmentation de la population dans ces vallées qui n'est pas négligeable. Entre 1990 et 2017, un village comme Saint-Martin-de-Vésubie a augmenté de 400 habitants.
Ouais, très intéressant ce que vous dites, madame, parce que j'ai noté aussi une étude de l'INSEE. Les zones potentiellement inondables dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 10% du territoire, mais abritent 19% de la population. Voilà, ça représente exactement 1 million d'habitants. 17% des logements sont construits depuis 2010, ça pour le territoire national, hein, sont situés en zone potentiellement inondable. Réaction Boris Velia-Chef, vous êtes architecte et ingénieur spécialiste des questions de risque majeur. Faut-il revoir l'urbanisation de nos villages et arrêter, encore une fois, d'habiter proche des cours d'eau, qui plus est à flanc de montagne?
Ah, d'habiter proche des cours d'eau, comme ça a été dit, comme l'a dit le maire précédemment, il y a un limageur de la rivière qu'il va falloir complètement éviter. Ça, c'est certain que toutes les maisons et toutes les infrastructures qui étaient construites dans cette zone, en fait, oui, ne devraient pas être construites ici. Ça, c'est clair. Bon, ensuite, il va falloir... Alors, bien sûr, comme le défendait le maire, il va falloir... Il y a une grosse partie de la population qui est quand même très ancrée au fait de vivre sur place. Ils sont là depuis plusieurs générations, etc. Il n'y a pas que des gens qui sont venus de l'extérieur s'installer là-bas aussi. Mais d'un autre côté, il va falloir apprendre à reconstruire autrement et à réurbaniser autrement, en prenant compte de l'aléa qui menace la région et qui va la menacer de plus en plus, hein, parce qu'ils vont devenir plus fréquents ou plus intenses dans les années à venir. Donc il va falloir apprendre non pas à s'en protéger totalement, parce que de toute façon il reviendra, il est récurrent, et de toute façon on en aura des plus puissants et on en aura toujours il y aura toujours des aléas qui vont dépasser ce qu'on avait prévu. C'était le cas de la tempête Xynthia, il y a toujours des accumulations de phénomènes qui font qu'il y a toujours de l'imprévisible. C'est pas immuable, le risque zéro n'existe pas, donc il va falloir apprendre à vivre avec le risque plutôt que d'essayer de trouver la solution technique pure, parce qu'on a vu qu'elle a ses limites.
Oui.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat du Club des Idées, ce soir on s'intéresse aux intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Comment se prémunir du pire face à ces épisodes climatiques extrêmes? C'est la question au centre ce soir de notre débat. On en parle évidemment avec nos invités. Emmanuel Macron était aujourd'hui sur place, au chevet des sinistrés, à Tende notamment, où il a dit ceci.
Ce qu'on va reconstruire, on ne le reconstruira pas à l'identique, parce qu'on connaît aussi les risques et on sait qu'il faut avoir quelque chose de plus résilient.
Voilà, c'est un aveu d'échec d'une certaine manière. Hervé Le Trott, vous êtes climatologue et professeur à la Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences. Le président l'admet, il faudra reconstruire différemment. On a peut-être pris trop de risques avec les constructions jusqu'à présent. Et on continue à le faire, parce que j'ai vu qu'il y a des logements neufs qui sont par exemple construits en France en zone normalement interdite, en zone inondable. Et ça représente beaucoup, beaucoup de logements.
Je pense que le risque, il est inévitable. Hein. Ça a été dit, il n'y a pas de risque zéro. Et en fait, les situations météorologiques qui sont créées par la circulation atmosphérique sont multiples, sont presque infinies. Je pense qu'il y a malgré tout des vulnérabilités qui sont en train de croître et dont on doit mesurer ce que cette croissance implique. On va avoir des événements effectivement différents, inattendus.
Oui, oui.
Alors, il y a malgré tout aussi une géographie des régions qui sont concernées, qui prêtent à là où on a des circuits de l'eau qui sont très resserrés, on peut avoir des situations qui deviennent rapidement beaucoup plus graves. Donc il y a tout un diagnostic à faire au mieux de ce que seront surtout, parce que dans le futur ça va nécessairement croître en termes général, que ce que seront les conditions dont il faut essayer de se protéger au maximum. Ça sera jamais zéro, mais je pense qu'il y a une vigilance qui doit être fortement renforcée. On voit quand même se répéter des épisodes.
Oui, et puis dans les mêmes zones, encore une fois.
Dans les mêmes zones où on aurait certainement pu mieux encadrer le débit de la rivière. Et c'est des choses qui demandent surtout beaucoup d'anticipation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire si on attend le dernier moment.
Même question, Yvette Véret, vous êtes géographe et co-autrice, je le rappelle, de l'Atlas des risques en France, hein, qui est un livre sur les catastrophes naturelles. Alors, on évoquait avec vous, dans un premier temps, l'urbanisation qui pose question, mais que fait-on sur les habitations qui sont aujourd'hui en zone inondable et en zone menacée ? Faut-il les déménager, déconstruire, reconstruire ? Comment on gère les habitants qui sont dans ces zones-là ?
Je crois quand même que, on l'a déjà dit, que analyser le lit majeur de la rivière, le fonctionnement d'un torrent méditerranéen qui n'a rien à voir avec l'écoulement de la Seine ou des fleuves du nord de la France, c'est une chose qui est d'abord fondamentale, savoir que le lit d'un torrent peut divaguer, changer de...
Oui, mais faire des tresses. Pardon madame, mais ça fait 20 ans qu'on dit ça, depuis même ça plus. Ans, depuis Vaison-la-Romaine, il y avait eu 47 morts, il y a eu l'Aude, 36 morts en 99, idem en 2002, 24 morts dans le Gard, etc. etc. Donc on a le sentiment qu'on n'apprend pas de nos erreurs et qu'on n'apprend pas du passé.
Absolument, tout à fait. Alors évidemment, on a des réglementations, on a des plans de prévention des risques, que toutes ces communes doivent avoir, normalement, toutes ces communes concernées, mais ces plans de prévention des risques qui justifient ou qui limitent plutôt les constructions dans les secteurs définis comme très dangereux, posent deux problèmes. Premièrement, ce qui est déjà construit en zone inondable, qu'en fait-on ? Et en zone inondable torrentielle. Oui. Et deuxièmement, la difficulté pour les maires en particulier, c'est de faire accepter ces plans de prévention des risques.
Aux habitants,
parce qu'en
vous voulez
fait,
dire.
Ces plans sont très contraignants, si vous voulez. Si vous avez un terrain au bord de la Vésubie, en plus, dans le Midi, on aime les terrains au bord de l'eau. En général, ils ont une certaine valeur. Et que demain, on vous indique que ce terrain n'a plus aucune valeur parce qu'il est en zone inondable, il est bien évident que cela crée des contraintes. Et évidemment, beaucoup de gens qui veulent la sécurité font le maximum pour aller contre les décisions des plans de prévention des risques, pris dans les plans de prévention des risques, et font le maximum pour que on modifie à leur profit ces PPR.
Alors je me tourne vers l'architecte et ingénieur qui est à mes côtés en studio, spécialiste des questions de risque majeur, Boris Veliachev. Est-ce qu'il faut aussi modifier la manière dont on construit ces habitats ? Est-ce qu'il existe des façons de construire ces bâtiments, ces maisons qui résistent aux torrents de boue, comme on l'a vu sur les images ces derniers jours ?
Au niveau des constructions elles-mêmes, il existe différentes techniques qui permettent de faire qu'elles soient plus résilientes, qu'elles résistent mieux. Maintenant, quand on a une simple maison qui se trouve au milieu d'un torrent, comme on a vu sur certaines images, avec en plus des troncs d'arbres, des morceaux qui arrivent dedans, il y a peu de chances qu'au bout d'un moment, la maison ne parte pas, surtout que le torrent érode les sols. Il agit comme un rabot et au bout d'un moment, la maison elle va partir avec le morceau de terrain sur lequel elle est. On l'a vu aussi avec la culée d'un pont qui est partie brutalement, sans doute avec un bout de la berge d'ailleurs. C'est parti avec, donc qu'il soit bien ancré ou pas, il finit par partir.
Vous évoquiez tout à l'heure prévenir les risques aussi. Ça veut dire améliorer les dispositifs de surveillance, de prévention, de sensibilisation aussi des populations.
On a un problème en France depuis longtemps, mais on a un système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves et qui a ses qualités. Mais il a également ses revers. On a un système depuis un certain temps, le président en avait parlé du fameux fonds Barnier qui a été instauré sous la présidence de François Mitterrand. C'est un fonds où on paye tous 12% dans nos assurances logement et 6% dans nos assurances voiture. On paye une taxe qui va directement dans ce fonds-là. Et ce fonds, il permet d'indemniser les gens en cas de désastre. On va déclarer une zone sinistrée et l'État se porte garant et indemnise les gens. Alors ce système fonctionne très bien, mais il fonctionne en post-désastre.
Oui.
Le problème avec ce système, c'est son revers, c'est qu'au bout d'un moment, comme le système fonctionne bien et qu'on paye tous ces taxes-là, etc., les autorités, l'État, est de moins en moins, malgré les discours, enclin en fait à financer de la prévention, ce qui est aussi très important et qui doit rester très important.
Oui. Faut-il revoir, pour terminer, ça sera le dernier mot, Hervé Le Treut, faut-il revoir le régime de catastrophe naturelle? J'ai vu que ça datait de 1982 tout de même.
Oui.
On est en 2020, alors, le risque a augmenté depuis.
Alors je ne suis pas spécialiste de cela parce que le droit est très compliqué, mais ce qui est certain, c'est que le droit actuellement crée des situations difficiles. Je l'ai vécu, je travaille beaucoup en région Aquitaine.
Oui.
Il y a des immeubles où les gens ont été évacués, qui ne sont pas indemnisés. Enfin, il y a des situations qui méritent effectivement qu'on arrive à donner une signification à ce que ça veut dire des risques futurs. Les risques futurs existent, ils se créent sous nos yeux, et il faut leur donner un sens aussi dans le domaine de la législation.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des idées d'Europe Soir à 19h52, et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et ce soir avec vous, Jean-Gabriel Bourgeois, bonsoir, on s'intéresse à la naissance des vigilances météo dans le prolongement du débat du Club des idées. C'était en 2001, une idée de Météo France suite à un terrible drame, la tempête qui a balayé la France en 99. Météo France réfléchit à mieux alerter les populations.
Oui, souvenez-vous de ce 26 décembre 1999. Ce dimanche matin, sur Europe 1, Bérangère Bonte présente le journal.
Une très large moitié nord de la France est donc dans la tempête ce matin. Des rafales de vent qui atteignent 150-160 km/h sur les côtes atlantiques. À Paris, ça soufflait tout à l'heure sur les Champs-Élysées à plus de 120 km/h.
Alors à l'époque, il y a clairement un défaut d'information. La tempête du siècle, comme on l'a appelée, a surpris tout le monde. Et il y a un avant et un après tempête de 1999. Une prise de conscience pour faire de l'information à la population une priorité chez Météo France. Et ça aboutit en octobre 2001 à la création des fameuses cartes de vigilance météo. Le grand public découvre les niveaux d'alerte département par département, vert, jaune, orange et rouge, pour tous les types d'événements météo extrêmes, vent, orage, inondation, neige, canicule et grand froid.
Niveau maximal ?
Rouge, oui, c'est la vigilance rouge est utilisée pour la première fois en septembre 2002 lors de graves crues dans le Gard. Alors ça veut dire quoi quand un département passe en vigilance rouge ? Eh bien écoutez les explications du monsieur météo d'Europe 1, Laurent Cabrol, en novembre 2008.
Vigilance rouge, ça veut dire rester à la maison, ne pas bouger, surtout ne pas circuler, éviter tout déplacement. Et si vous devez circuler, il faut respecter scrupuleusement toutes les signalisations mises en place à cette occasion.
Voilà, rester chez soi, vigilance absolue. Au total, l'alerte rouge a été déclenchée une quarantaine de fois depuis 20 ans.
Sauf que ce système d'alerte provoque très régulièrement des polémiques.
Oui, une alerte orange qui aurait dû être rouge, une alerte qui arrive trop tard ou qui est levée trop tôt. À chaque vigilance, sa polémique. Comme par exemple, quand d'importantes chutes de neige paralysent l'Île-de-France, des milliers de personnes passent la nuit dans leur voiture, bloquées sur les routes, on s'en souvient. C'était en décembre 2010 et François Fillon est alors Premier ministre.
Météo France n'avait pas prévu cet épisode neigeux, en tout cas pas son intensité. Les prévisions c'était 3 cm et qu'il est tombé, je crois, 12 cm sur Paris même et 20 cm sur certaines régions de la banlieue. Et donc il est incontestable que les services chargés du déneigement ont été pris au dépourvu.
Le Premier ministre qui dit donc que Météo France n'avait pas prévu cet épisode, Valérie Darmon, c'est vrai ?
Bah non, évidemment que c'est pas vrai, je suis atterrée, c'est sans commentaire. Tous les prévisionnistes météo ont fait un suivi de l'épisode neigeux depuis le début, donc évidemment c'était annoncé.
Voilà, et aujourd'hui encore, on réfléchit évidemment à un moyen de mieux diffuser les alertes météo.
Oui, il y a à peine 15 jours, hein, le 24 septembre dernier, le gouvernement annonce le cell broadcast, diffusion cellulaire en bon français. Ce sont de mini-messages prioritaires que vous recevrez bientôt sur votre téléphone portable si vous êtes dans une zone impactée par un danger, y compris quand le réseau sera saturé. Une révolution pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Au XXe siècle, on est passé du tocsin à la sirène. Et au XXIe siècle, on passera de la sirène donc au téléphone portable. Est-ce un feu ? Est-ce une inondation ? S'agit-il de fumée toxique ? Et que faire ? Est-ce qu'on doit rester chez soi ? Est-ce qu'on doit quitter sa maison ?
Alors la diffusion cellulaire existe déjà dans d'autres pays, notamment pour les tornades aux États-Unis. Et la France a du retard. Une directive européenne oblige les États à mettre en œuvre ce système d'ici 2022.
Bien, merci Jean-Gabriel pour ces archives et ces explications. Le jour où, c'est tous les soirs à partir de 19h50 dans Europe Soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, on va se détendre un petit peu avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir.
Bonsoir, Julien.
Alors, quel est le programme ce soir, ma chère Émilie?
Alors, ce soir, de la littérature jeunesse, ado et rock'n'roll, Les aventures de Siméon à Londres. C'est un bouquin signé J.D. Beauvallet, un des fondateurs du magazine Les Un Rock, et illustré par Robin Fex. Lui, c'est le bassiste de Louise Attaque. Ils sont là tous les deux ce soir pour nous en parler.
Bon, bah génial, on va écouter ça avec les enfants alors.
Oui, voilà.
Merci Émilie, à tout de suite. Dans un instant, le Flash Info. Et nous, évidemment, on se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h pour écouter le Monde Changé avec l'équipe d'Europe Soir. Ciao, ciao.